Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous suivons les pas d'une voyageuse des terres cultivées. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Charline, je suis ingénieure agronome et spécialisée en particulier en agriculture urbaine et dans les pratiques de permaculture qu'on essaye et qu'on peut adapter au milieu urbain. Je suis arrivée dans ce domaine-là dès le lycée avec une grande passion pour la nature en ville et même si j'ai toujours habité en ville, un besoin de nature que j'ai ressenti toute jeune. Je pense aussi du fait que j'ai fait de l'équitation et que j'avais un grand amour pour les animaux et pour les chevaux en particulier. Je voulais en faire une vocation, le lien à l'animal, au vivant en général et puis aux plantes, du coup, à la flore. Voilà, donc j'ai découvert ce secteur professionnel, on va dire, et même... citoyen et presque militant de la notion de besoin de nature en ville et mesuré par les collectivités en mètres carrés de jardin par habitant et qui est toujours insuffisant par rapport au besoin de l'humain d'être entouré de vivants et de vert. J'ai commencé par étudier les services écosystémiques que rendent la nature en ville. C'est une vision très anthropomorphée de la nature, mais pour expliquer que le fait d'avoir de la nature en ville, ça permet de lutter contre plein de problèmes liés à l'urbanisation, notamment l'îlot de chaleur urbain, le ruissellement des eaux pluviales qui va donc avec des risques d'inondation et de crues, etc. Dans mon parcours après études, je me suis spécialisée et passionnée plus particulièrement pour lier de l'ordre du comestible parce que je suis animée aussi par la notion d'utilité et du fait que chaque action peut avoir plusieurs effets, plusieurs bénéfices. Et donc la nature en ville, c'est super, mais... si elle peut aussi être comestible, pédagogique, médicinale, c'est encore mieux. Et donc voilà, j'ai orienté mon parcours vers l'agronomie, le milieu agricole, avec cet aspect agriculture urbaine pour participer à des projets de fermes urbaines, de jardins partagés, sur à la fois des milieux très urbanisés comme des toitures et des balcons, mais aussi des zones de friche, des espaces vacants, des zones de gazon, des pelouses qui ne servent pas à grand chose entre guillemets et qui ne demandent qu'à être exploitées entre guillemets pour d'autres usages. J'ai quelques dizaines de jardins à mon actif en région parisienne notamment. J'ai participé à des projets pour des assos, pour des particuliers, pour des entreprises. Et notamment mon dernier emploi, c'était pour une petite boîte que j'ai beaucoup aimée, même si je les ai quittées récemment, qui s'appelle Ciel Mon Ravi et qui fait des potagers en entreprise avec une démarche de pédagogique et aussi de qualité de vie au travail. Donc ça répond aux exigences RSE des entreprises et aussi d'un point de vue RH, surtout au moment de post-Covid, où beaucoup de citadins étaient enfermés chez eux en télétravail, le fait d'avoir un potager sur leur lieu de travail, ça les a encouragés à recréer du lien entre eux, à revenir sur leur lieu de travail et à avoir une dynamique de collaboration. J'ai aussi une pratique artistique, je fais beaucoup d'aquarelles. Voilà, j'ai exploré les encres végétales, la teinture végétale, le tissage de plantes. Là, je suis en train de me former aussi à la vannerie. C'était hyper riche pour moi, dans ce contexte très citadin, et contraint, qui d'ailleurs me plaisait de moins en moins au final, d'avoir cette bulle de créativité par mon atelier et des bulles de nature grâce à mon travail avec les potagers et les jardins en ligne.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Le vivant, c'est mon habitat naturel. C'est à la fois le logement en tant qu'animal. Voilà, c'est l'endroit où je vis, où je me nourris. Et c'est un endroit où je me sens bien et où j'aime aussi me sentir utile et avoir l'impression que j'ai pas trop d'impact, en tout cas pas trop d'impact négatif, et que je suis plutôt en collaboration avec ce vivant. Une couleur, j'ai envie de parler du vert. Il y a une étude de biophilie qui m'a beaucoup passionnée quand j'en ai entendu parler, qui explique comment l'œil humain a la capacité de percevoir un nombre très très grand de nuances de vert différents parmi tout le prisme des couleurs visibles. Le vert, c'est vraiment celle que l'œil humain voit le mieux et dont il perçoit toutes les nuances. Et aussi, cette étude, elle explique l'effet du vert sur nos hormones et du coup, bah, notre bien-être et même notre immunité, etc. Et donc, bah, aujourd'hui, j'ai quitté la ville et j'ai du vert beaucoup plus présent dans mon quotidien que l'impression de me nourrir de ce vert et ça... Ça me fait beaucoup de bien, donc je pense qu'il y a aussi un effet placebo du fait que j'ai ces connaissances-là. Mais un son, là, en ce moment, je vis dans un endroit où il y a un grand bois et j'ai un très très grand plaisir à me lever tôt le matin pour écouter les oiseaux et en particulier les piques qui tambourinent contre les troncs. C'est assez rare en fait ces sons-là et du coup ça les rend très précieux et je me sens hyper chanceuse quand je les écoute, quand j'ai la chance de les écouter et que je fais l'effort aussi de me lever assez tôt pour les entendre. Pour une texture, j'ai très envie de parler de la douceur des pétales de coquelicot, des pétales de fleurs de manière générale, mais le coquelicot pour moi c'est une fleur particulièrement incroyable et qui est présente beaucoup dans ma vie. J'adore cette fleur parce que c'est une fleur pionnière, c'est une fleur qui est à la fois très fragile et à la fois qui est d'une robustesse incroyable parce qu'elle se dissémine très bien et elle fait des champs de coquelicots très facilement. Ça fait comme des hordes de petits points rouges magnifiques. Et la texture de son pétale, il est incroyable. C'est vraiment très soyeux. C'est aussi quelque chose de rare et donc de précieux. Puis, je m'autorise très rarement en fait, à toucher les pétales de coquelicots parce que dès qu'on les touche, on les abîme en fait. Et on peut d'ailleurs pas les cueillir parce qu'ils fanent tout de suite. En termes de goût, tous les fruits... quel qu'il soit, du potager ou du verger. J'ai un grand plaisir, notamment quand je suis en train de travailler, à picorer une tomate, une fraise, un jeune concombre ou un jeune haricot, un pois, et croquer bien frais, à peine cueilli. Voilà, tous ces goûts-là de fruits, c'est un bonheur et j'ai la chance de pouvoir y goûter pendant que je travaille un peu à volonté tous les jours. Donc c'est une grande chance. En termes d'odeur, l'odeur de pétrichor après la pluie ou après un arrosage d'ailleurs. Et ouais, c'est une odeur qui fait ressortir toutes les molécules volatiles de la terre et qui sont aussi des molécules très très bénéfiques pour tous les animaux et pour l'homme et pour le système immunitaire, etc. Donc un peu de la même manière, quand j'ai l'occasion de sentir cette odeur, j'aime bien me remplir les poumons en me disant que voilà, c'est aussi, ça me soigne en même temps.
Dis-nous, comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Dans mes projets actuels, j'essaye de mêler mon besoin de nature, on va dire, individuel et personnel et même un peu égoïste, avec la notion d'utilité, quoi, et de me sentir, bah, comme je disais, faire partie de cet écosystème et au lieu de l'utiliser comme une ressource d'en faire partie et de lui apporter autant que je lui prends. Mon parcours professionnel m'a emmenée dans une phase un peu de transition, on va dire, où je me sentais plus tout à fait alignée avec ces besoins-là en étant en ville. J'ai quitté la ville pour aller découvrir la France rurale, la France vivante, la France verte, etc., au travers de projets de tiers-lieux et d'éco-lieux donc tout autour de la France. Et j'ai acheté un camping-car et j'ai utilisé un peu de diesel, malheureusement, pour ce voyage. Partout où je suis allée, j'ai essayé de rembourser cette empreinte carbone comme je pouvais. Donc, j'ai fait beaucoup de bénévolat, volontariat, du woofing, etc. Et là, maintenant, je suis dans une période d'incubation où je réfléchis à comment j'ai envie d'utiliser toutes ces informations que j'ai récoltées, tous ces apprentissages, ces rencontres hyper touchantes de gens qui m'ont accueilli à bras ouverts pour me montrer leurs projets, leurs actions. Et je suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de faire moi, de ma vie, pour me rendre utile, encore une fois, le plus possible. Je crois beaucoup aux écosystèmes et donc à l'échelle très locale, point de vue d'un groupe humain, de gens qui se connaissent. Et donc, voilà, c'est pour ça que la notion de tiers-lieu me parle beaucoup, la notion d'économie circulaire, de production locale, vente directe, de connaître le producteur qui te fait à manger, entre guillemets. J'ai envie de combiner tout ça, donc ça prendra la forme probablement d'un lieu, mais peut-être d'un lieu éventuellement itinérant. Là, je suis en train de réfléchir à un projet de voyage sur plusieurs années en péniche, et avec mon compagnon, on est en train de rêver de ce projet où on a envie de diffuser des savoirs et des savoir-faire autour des métiers du vivant, et lui en particulier les métiers du bois, parce qu'il est menuisier, et moi autour d'un tout un tas de pédagogie, de transmission autour du vivant, du comestible et du médicinal, aussi des usages, des autres usages du vivant, et comment le faire respectueusement, comment faire une cueillette respectueuse dans la forêt, par exemple, pour faire de la vannerie, pour se confectionner des paniers, etc. Comment le faire de manière respectueuse, etc. Donc voilà, c'est encore en projet, mais en tout cas, une ligne directrice pour moi dans tout ce que je fais, c'est de ne rien gâcher, tout utiliser à sa juste valeur et d'essayer de transmettre ces valeurs-là. Sous les yeux et ta
gomme. D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Alors d'abord, moi j'ai un peu du mal à distinguer l'homme et le vivant, parce que je rêve d'un monde où justement on arrêtera de faire cette distinction entre nature et culture, entre les humains et les non-humains. Je m'inspire aussi beaucoup de ce que dit Philippe Descola sur ce sujet-là. Et je pense que l'humain, au sein du vivant, il a un rôle tout simplement comme tous les autres êtres vivants, et puis même comme toute la matière minérale et tout ce qui n'est pas vivant, d'être tout simplement un contributeur, et puis d'être, comme je disais au début, un habitant qui utilise effectivement des ressources dans cette écosystème. Aujourd'hui, on en est venu à avoir tellement exploité cette ressource de manière déraisonnée que on est obligé de mettre en place des méthodes de protection et de restauration. Voilà, j'en fais partie. Enfin, j'essaye d'agir dans ce sens. J'espère qu'un jour, on va retrouver l'équilibre et que l'humain aura sa place naturelle dans le vivant sans l'abîmer. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips.
On va passer à la question d'actualité. Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, tendez la feuille de chou au précédent épisode de la chronique qui est déjà paru semaine dernière sur les ondes de notre radio PFM 99.9. La proposition de loi, dite loi du plomb, du nom du sénateur qui en est rapporteur et premier signataire, réellement intitulé « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur », a été votée au Sénat le 28 janvier et a fait l'objet, ce lundi 26 mai, d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale, mettant de côté les 3500 amendements. Ces derniers ont été rédigés en réaction à ce texte par les diverses commissions de l'environnement et de l'économie. Et pour cause, le texte comporte de nombreux éléments qui vont impacter l'environnement et l'agriculture, tels que, en premier lieu, l'allègement de la réglementation sur les produits phytosanitaires, permettant de remettre sur le marché des néonicotinoïdes, ainsi que divers produits biocides, signifiant étymologiquement « tueurs de vivants ». Mais également la simplification des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, pour les bâtiments d'élevage intensif. On peut aussi noter que le dernier article de la proposition de loi, article 6, vise à encourager l'Office français de la biodiversité à privilégier les procédures administratives plutôt que judiciaires en cas de poursuite. De même, il est entendu dans ce texte la mise sous tutelle de l'ANSES, organisme contrôlant les brevets et la mise sur le marché des produits phytosanitaires, via le contrôle d'un comité où exploitants et commerçants seraient invités à participer. A noter que ce projet de loi veut sécuriser l'accès à l'eau, objet de son titre 3. Cela passerait par la restriction de la définition de la zone humide et la déclaration des projets de stockage d'eau, comme les méga-bassines, comme d'intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique, est-il précisé dans l'exposé des motifs. Cette déclaration permet de rehausser la place de l'agriculture dans la hiérarchie des usages de l'eau, en la plaçant au niveau juridique, au même niveau que l'environnement. Ce qui permet par exemple, en cas de recours contre une réserve naturelle, de défendre le caractère agricole d'intérêt général majeur. Plus de mégabassines, moins de zones humides, c'est ce qu'on peut en déduire. On remarque qu'un des éléments les mieux accueillis par un consensus est l'article 4 de la proposition de loi, qui prévoit de mettre en place les modalités de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture, en particulier pour les prairies. Ce qui, dans le contexte de dérèglement climatique actuel, est plutôt bienvenu. Le gouvernement a annoncé une procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture dans chaque chambre, adoptée par le Sénat le 28 janvier, examinée en commission de développement durable à l'Assemblée nationale les 6 et 7 mai, examinée les 13 et 14 par la commission des affaires économiques, cette proposition de loi soulève désormais des foules à l'Assemblée nationale suite à la motion de rejet déposée par les personnalités comme Julien Dive, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal. Cette proposition de loi va maintenant directement faire l'objet d'une commission mixte paritaire au sein de laquelle 7 députés et 7 sénateurs vont tenter d'élaborer une version commune aux deux chambres du Parlement. En cas d'accord dans cette commission mixte paritaire, celui-ci sera soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat qui se prononceront par un vote. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
À la lumière de tout ce que j'espère, j'ose espérer pour le vivant et pour le monde agricole. Moi, je suis dévastée de ces actualités et je le dis au pluriel parce que il y en a d'autres qui me touchent beaucoup. Il y a aussi les notions de, enfin les sujets autour des aires marines protégées. Enfin, on fait des pas en arrière là ces derniers mois, années que j'ai du mal à comprendre et à entendre. Regard des urgences de mobilisation contre nos actions qui détruisent le vivant et qui accélèrent le dérèglement climatique. Moi, je trouve ça complètement fou qu'on soit en train de détruire notre propre maison et que aujourd'hui, en plus, on cache ça sous des terminologies qui ont l'air très bien hein, de réduire les contraintes pour les agriculteurs. A priori, moi, je suis pour hein, les agriculteurs qui me nourrissent. J'aimerais effectivement qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et avec le moins de contraintes possible. Mais là, on parle d'autoriser d'à nouveau empoisonner les abeilles, par exemple. Tu as parlé des néonicotinoïdes. Enfin, je trouve ça aberrant qu'on ne soit pas encore conscient aujourd'hui que le jour où il y aura plus de pollinisateurs et d'abeilles en particulier, on pourra tout simplement plus se nourrir. Donc voilà, moi je suis dévastée et en fait je me protège un peu égoïstement en fait de ce rapport à l'information. J'ai eu quelques moments dans ma vie où j'avais l'énergie d'être beaucoup plus militante et aujourd'hui je le suis moins et je m'en préserve un petit peu et à la fois je m'en veux, ça va aussi avec un peu de culpabilité bien sûr, mais c'est un choix conscient que j'ai fait aussi de m'en éloigner un petit peu parce que je suis en train de construire des projets où je me sens utile et j'ai besoin de retrouver ce rapport-là, comme je disais tout à l'heure aussi, au local, la notion de groupe humain, voilà, qui fonctionne ensemble avec des relations saines, etc. On centre plus là-dessus le plus possible. Tous ces pas de recul, ils me touchent trop, en fait. Donc, je préfère, pour le moment en tout cas, m'en éloigner un petit peu. Pour construire mes projets et revenir aussi plus forte là-dedans quand j'en aurai l'énergie, quoi.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trompent.
Alors, j'ai envie de mettre en avant deux choses. D'une part, en termes de rendez-vous, il y a bientôt fin juin. Le marché de la poésie, il se situe en région parisienne, à Paris. Pour plus de légèreté, parler d'un bouquin, d'un roman que j'ai lu récemment, qui s'appelle Psaume pour les recyclés sauvages, de Becky Chambers, qui est un roman, une fiction futuriste, et qui, comme assez peu de romans futuristes, parle d'une vision de l'humanité où l'humanité aurait réussi à faire de bons choix et à cohabiter avec le vivant de manière sereine. Comment on se positionne en tant qu'humain dans les écosystèmes qu'on traverse, quoi.
Au bout du compte, que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leur petite chanson.
Un petit poème que j'ai écrit. Toute âme est faite des liens qu'elle tisse avec ses sœurs. Un lien unique d'une seule couleur.
Les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Tu y as pêché où, baobab, acajou.
Voici que cet épisode, aux côtés d'une amie, des pensées qui prennent racine, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie.
Des landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremble être noyées.